C'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe! C'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Il y en a plus.
Oh, il n'y a plus de café, là.
Attends, on fait après l'émission.
Le papier n'est pas imprimé, là.
Les jours.
Oh, ouais, ce gaz qui marche pas. Mais c'est pas
vrai. Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois. Zou.
Allez, les gars.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va.
Allez, c'est parti.
Vivement perchoir qu'on se mouche bleu. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Elsa.
Salut
Bonjour
Manu.
Z. Voilà au sommaire de cette matinale aujourd'hui dans Chou et Fadaise, l'emploi est contre tout. On verra ce qu'on nous dit dans la presse. Dans Chemise à rayures, deux sujets. Un sujet sur Nicolas Blaise à la guinguette Lautrec, un autre sur Julien qui fait partie de l'organisation du Rootserg Festival. Enfin, on ne fait pas un sujet sur Julien, on fait un sujet sur Rootserg Festival. C'est lui qui parle. Et dans la chronique 3A246, la chronique de la Maison de la Mémoire, on ira se promener de l'autre côté de la Sorgue, puisque la semaine dernière, on était, dans la chronique dernière, on ne sait pas si c'est la semaine dernière qu'elle est passée, on était du côté de la Place aux Herbes. Voilà, c'est bon pour le sommaire. Allez, pour commencer cette matinale, une petite pause musicale. Déjà, on s'arrête. Eh bien, ouais, on a peine à démarrer qu'on se repose. Un CD qui déjà est programmé depuis lundi sur France Inter. Ils nous copient, hein, je le dis franchement, puisque nous, les CD de la semaine étaient déjà préparés depuis 15 jours. Soufris, Maracas, ce sont deux Vincent, un qui s'appelle Sanchez. Et l'autre, Alar, ce sont deux C'est toi, si tu crois que cette nuit.
Si tu crois que cette nuit, je vais te laisser tranquille, à demi endormi, faut que tu te déshabilles. Moi, mon plaisir à moi, c'est de te rendre fébrile, que tu inondes les draps avec ta sueur divine. Cette nuit dans tes bras, je vais oublier l'usine, mon patron qui m'aime pas, et ses secrétaires mesquines. Allez, réveille-toi, ouvre l'œil et dis-moi que c'est moi que tu veux, tout coller contre toi, ma main dans tes cheveux, sans que tu ne me vois qu'au plus profond de toi, je fasse ce que je veux. Si tu crois que cette nuit, je vais te laisser tranquille, à demi en envie de goûter à ta vanille. Moi, mon plaisir à moi, c'est de te rendre fébrile, rouler par-dessus toi jusqu'à ce que tu me supplies de descendre plus bas et de pousser les machines de ton corps aux abois, jusqu'à ce que tu t'illumines. Allez, réveille-toi, ouvre l'œil et dis-moi que c'est moi que tu veux, tout coller contre toi, ma main dans tes cheveux, sans que tu ne me vois qu'au plus profond de toi, je fasse ce que je veux. Avec toi, pour abîme de ma vie de forçat. Et on peut avec la routine, un coup toi, un coup moi. Une langue si facile, pas besoin de vocabulaire pour se mettre à l'envers. Allez, réveille-toi, ouvre l'œil et dis-moi que c'est moi que tu veux. Tout coller contre toi, ma main dans tes cheveux, sans que tu ne me vois qu'au plus profond de toi, je fais ce que je veux.
Si tu crois que cette nuit, après cette chanson, on n'a qu'une envie, hein, c'est d'être à ce soir. Un gros filou. Elsa, l'emploi est contre tout. Pourquoi ?
Et ouais Manu, on va voir que c'est pas super jojo ce qui se passe en France. Donc de la difficulté de la jeunesse actuelle face à l'emploi, au déboire des salariés confrontés et bien trop souvent à un quotidien sans rêve et sans illusion, je vous propose un tour d'horizon sur l'épineuse réalité du monde du travail. Certains d'entre vous ont certainement des enfants en bas âge qui vont à l'école ou encore des jeunes qui vont au lycée, à la fac et se questionnent encore sur leur avenir. L'utopique question « Qu'est-ce que j'aimerais faire quand je serai plus grand ?» ne trouve plus aisément sa place dans un monde en crise où travail rime trop souvent avec profit et rentabilité. Un article paru il y a deux jours dans lemonde.fr, version informatique du journal Le Monde, et ouais, faut bien que les médias se mettent un petit peu sur le web aussi. On n'arrête pas le progrès, hein, Manu ?
Oula, mais ça fait un moment, hein.
Et donc nous apprenons dans lemonde.fr, dans cet article, que le chômage en France touche en premier lieu les jeunes. Sur le total officiel de 2,5 millions de chômeurs, plus de 1 million ont moins de 30 ans. Soit un taux de chômage de 17,4% contre 9,1% pour l'ensemble de la population active. Quant aux jeunes de moins de 30 ans, dépourvus de diplôme, leur taux de chômage est de 35% et atteint 40% dans certains quartiers.
Et...
Pour beaucoup d'entre eux, donc en fait dans l'article ils disent l'insertion des jeunes dans le marché du travail est une priorité nationale, je pense que ça plutôt devrait être une priorité nationale, n'est-ce pas ? Pour beaucoup d'entre eux il est trop tard pour entrer en apprentissage ou obtenir un diplôme professionnel. Ils ont besoin de travailler tout de suite, quitte à compléter plus tard leur formation, donc leurs chances de trouver un emploi salarié sont très très faibles. Ensuite, toujours sur le site internet lemonde.fr, mais cette fois-ci avec l'AFP, un autre article intitulé « Une génération entière traumatisée par la crise », prévient l'OIT. Dans son étude annuelle sur l'emploi des jeunes, l'Organisation internationale du travail, donc l'OIT, a lancé une sévère mise en garde mercredi 19 octobre, il n'y a pas si longtemps, contre le traumatisme de toute une génération de jeunes confrontés à un chômage toujours élevé et à la précarité dans les pays développés. C'est quand même quelque chose, quoi. En outre, l'OIT dénonce la multiplication du nombre des travailleurs pauvres dans les pays en développement. Dans ce rapport, l'OIT stigmatise l'infortune de la génération qui arrive sur le marché du travail en cette période de grande récession. Outre le chômage et la précarité, les jeunes peuvent aussi être contraints à accepter des rémunérations moins élevées. Le rapport note que cette frustration collective chez les jeunes a été l'un des moteurs des mouvements de protestation qui ont eu lieu à travers le monde cette année. Printemps arabe, on s'en souvient, et autres. Car il devient de plus en plus difficile pour les jeunes de trouver autre chose qu'un travail à temps partiel ou un emploi temporaire. On apprend également dans cet article que le chômage chez les jeunes a légèrement diminué et le rapport relève même que la diminution du nombre de chômeurs s'explique notamment par le fait qu'un certain nombre d'entre eux se retirent du marché du travail et renoncent carrément à chercher un emploi. Donc c'est une situation assez catastrophique. Et en fait, il y a aussi de plus en plus de jeunes qui se réfugient dans les études faute de mieux ou qui attendent chez leurs parents que la situation économique s'améliore. Ça, c'est l'AFP qui a sorti un truc là-dessus. Donc, il faut savoir que cette situation dramatique ne s'arrête pas seulement à la France, mais touche plusieurs pays européens, notamment en Irlande, où c'est la grosse catastrophe, pareil. Donc ça, c'est pour les jeunes chômeurs qui n'ont pas accès à l'emploi ou trouvent difficilement un emploi ou sont pas bien payés. Mais qu'en est-il des étudiants ? Dans le Politis de cette semaine, nous en avons rapidement parlé lundi avec Audrey dans leur vue de presse, on apprend que la situation n'est pas facile non plus pour les jeunes qui ont choisi de poursuivre les études à la fac. Donc dans cet article, ils disent que la moitié des 2,3 millions d'étudiants, la moitié, doivent travailler pendant leur parcours universitaire. Donc en fait, ils expliquent qu'avant, tu pouvais être pion, tu sais, donc c'était sympa parce que c'était peu d'heures. Et en fait, le boulot de pion, il est de moins en moins accessible et il y a de moins en moins de postes. Donc en fait, ils sont obligés de travailler soit les week-ends, soit le soir, des fois après la fac, soit les vacances. Mais il y en a beaucoup qui ont presque des temps pleins en plus de leurs études. Donc ils expliquent que c'est une catastrophe sur, évidemment, les résultats.
C'est pas compatible.
C'est pas du tout compatible. Donc ça c'est intéressant, le taux brut de réussite aux examens est de 55,8% pour les étudiants qui travaillent moins de 16 heures par semaine et seulement de 37,9% pour ceux qui travaillent plus de 16 heures par semaine, selon l'INSEE. Voilà, donc en fait ils disent que pour ne pas nuire au travail et à la santé, parce qu'ils sont épuisés ces jeunes-là, ils vont bientôt être sous calmants et médicaments, le travail des salariés étudiants ne devrait pas dépasser les 15 heures par semaine. Et c'est rarement le cas. Il y a des témoignages de jeunes qui expliquent qu'ils ne voulaient pas continuer à vivre chez leurs parents, qu'ils voulaient être autonomes. Donc, se payer les études, c'est aussi ça. Il y a plein de familles qui ne peuvent plus assurer leur arrière. Et les bourses, elles ne suffisent plus à la vie actuelle, à l'appartement, à la nourriture, aux sorties. Donc voilà, les jeunes qui ont décidé de poursuivre à la fac, ils sont à la fois protégés du monde du travail, mais ils galèrent énormément aussi. C'est pas tout à fait ça, quoi. Donc ça, c'était le Politis de cette semaine. Et alors, qu'en est-il de ces adultes parvenus à se faire une place dans la société ? Tu sais, là, les ingénieurs ou les gens qui ont une grande place, est-ce que les problèmes sont-ils résolus quand on a un emploi ? Alcool, cocaïne, ils se droguent pour tenir au travail. Ça, c'est le titre d'un article paru avant-hier sur Rue 89. Et on y découvre la face cachée d'une vie rêvée. Donc voilà, ils nous expliquent dans Rue 89 que pour rester au top ou ne pas s'ennuyer, ils usent des médicaments, alcool, cannabis et cocaïne. Donc là, il y a pas mal de témoignages qui sont très très intéressants. Je ne sais pas si je vais tout lire. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller voir cet article sur U89. Ils expliquent que la cocaïne, c'est pour tenir la pêche, que le cannabis, ça permet de tenir quand on a un ennui. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est des gens qu'on imagine importants dans des postes. Et la plupart du temps, ces personnes-là s'ennuient et ne trouvent pas leur place et d'intérêt. Donc il faut bien affronter la réalité et se droguer. Et il y a carrément un médecin qui témoigne aussi de cette montée de consommation dans les entreprises. Voilà, donc ça, allez le lire. Et je ne sais pas, Manu, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que j'ai le temps pour finir avec un petit texte ?
Oui, tu as trouvé un petit texte sur Rue 89 que tu as jugé très intéressant de nous lire. Alors, on t'écoute.
Voilà, donc je voulais juste te dire aussi que pour les auditeurs qui ne connaissent pas, il y a Bec Bédé qui a écrit un livre 99 francs qui a été interprété, enfin qui est passé au cinéma avec Yann Kounen, le réalisateur, qui a réalisé donc 99 francs, un film sur un publicitaire qui craque complètement et est obligé de se droguer pour supporter l'ennui et la stupidité, et enfin, surtout la folie de ce monde de travail et de la vie qui en découle. Donc si vous pouvez lire ou voir 99 francs, allez-y, c'est génial. Et je sais pas, Manu, si on a vraiment le temps de lire ce texte.
Oui, tu as le temps.
Bon. Alors, allons-y. C'est un témoignage que j'ai trouvé aussi sur Rue 89, qui est vraiment très intéressant. Je vais le lire, vous pourrez le retrouver. Et il s'intitule « Petit, je voulais être boulanger, mais j'étais bon en maths ». Et c'est un ingénieur qui témoigne. Il dit « Petit, je voulais être boulanger, puis facteur, puis berger. On m'a poussé à faire des études. On m'a expliqué que c'était le seul moyen de réussir ma vie, de gagner de l'argent, de m'épanouir dans un métier. J'ai enduré de longues heures, de longues années de cours. Je me suis ennuyée et encore ennuyée sur des dizaines, des centaines, des milliers de chaises. Et maintenant que j'ai 5 années d'études en poche, que je travaille, je suis ingénieur, je passe mes journées à concevoir des cuillères en plastique à moindre coût, pour environ 1700 euros par mois. Je continue à m'ennuyer et regrette profondément de n'avoir pas écouté le petit enfant qui voulait élever des moutons en Ardèche. » Là, il parle de ses collègues de travail, en fait, qui n'arrêtent pas de se plaindre en disant « J'en ai marre de tout donner, de partir tous les matins à 7h du mat et de rentrer tous les soirs à 20h, de continuer à galérer pour manger des casseroles de pâtes et pour payer un 20 mètres carrés tout miteux. » Donc ça, c'est quand même la vie des ingénieurs. Donc il y a peut-être un petit problème quelque part. Je pense que je ne vais pas lire tout le témoignage de cet ingénieur, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais il parle de l'éducation aussi. Il dit que pour maintenir l'ordre, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Donc les télés, les radios, les politiques, les profs, les parents, toute la société dans son ensemble angoisse sans cesse la jeunesse. La situation est grave, nous sommes en crise, il faut entrer dans la guerre économique. Les plus faibles sombreront dans le chômage et finiront à la rue. De toute façon, il n'y a plus d'argent dans les caisses et on ne va pas taxer les riches, les spéculateurs et les capitaux, car sinon ils partiront tous à l'étranger. Tremblez, enfants de la 5e puissance mondiale, si vous ne voulez pas crever de faim, travaillez, étudiez vos mathématiques, devenez ingénieurs, faites-nous des plans d'avions de chasse et de centrales nucléaires. Donc lui, c'est intéressant parce qu'il témoigne de son parcours, mais il parle aussi de l'éducation, du formatage dès l'école et des matières philosophiques, artistiques qui réduisent et qui permettent à l'individu et à l'enfant de trouver un sens à sa vie et du coup un métier. Et en fait, là, il faut le lire surtout par rapport à ce qu'il dit sur l'éducation. Mais je vais m'arrêter là, Manu.
On ne va pas s'inquiéter. Il y en a deux, là, actuellement, qui vont sauver l'Europe, il paraît. Alors, on va les laisser faire. Hein. Et après, ça va être génial. Hein. Il paraît qu'ils vont nous sauver. Deux pingouins, là, qui sont arrivés de nulle part et qui vont, voilà, sauver la planète. C'est la moitié de la planète. Voilà, à l'époque, ça s'appelait les acédiques. Il y avait les escrocs.
J'avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens, allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit, les cons n'a pas de fric. Acédique, je t'écrirai de temps en temps. Tu m'enverras mon virement directement. Tout là-bas dans mon nid, acédique, avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Ah non, en m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non, je veux que ça dure toute la vie. Chaque jour soit férié, un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival. Acédique, je t'écrirai de temps en temps. Toi, tu m'enverras mon virement directement. Sous la barre, dans mon lit, acédique, enfin ma place au soleil. Ce serait dommage. Acédique, tu seras ma petite maman, la maman de tous les gens qui n'ont pas d'argent.
Les escrocs acédiques, merci Elsa pour Chouet Fadez, une petite revue de presse sur l'emploi.
Merci Manu.
On enchaîne avec la rubrique « La chemise à rayures ». Et aujourd'hui, Nicolas Blaise. Nicolas Blaise, il a été interdit à l'espace Turel d'une surface commerciale de Rodez. Oui, j'ai enlevé le cul car il y avait censure. Voilà, Nicolas Blaise était sur les quais de Sorgue au printemps à Saint-Taf. Il sera à la guinguette Lautrec le jeudi 27 octobre à 21h à Rodez. On retrouve une interview d'Elsa Gourmand.
Nicolas Blaise, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes écrivain et auteur-compositeur. Avant de parler de votre livre, qui s'intitule « La petite culotte communiste », est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ?
J'habite sur Aubin, donc je suis originaire de Olemps, à côté de Rodez. J'ai décidé d'essayer de vivre de ma plume, si on peut essayer de dire comme ça. Donc je me lance un petit peu dans la vente de mon livre et dans l'écriture.
Alors d'ailleurs c'est marrant parce que dans votre biographie que vous présentez sur votre blog, vous semblez dire que l'écriture vous a pris comme ça du jour au lendemain. Alors je vous cite, hein, « Un jour, alors que le millénaire dernier était en train de capoter et de passer au suivant, j'ai eu une idée. Tiens, je me suis dit, je vais écrire. » C'est vrai, ça s'est passé comme ça ?
Eh bien ça s'est un petit peu passé comme ça, oui. Il y a deux vers qui me sont venus. Je les ai trouvés plutôt sympas, j'ai un petit peu brodé autour, ça m'a fait un premier poème et bon, j'étais, on va dire, assez satisfait du résultat, donc j'ai continué et à force de faire, voilà, je suis arrivé à avoir une quarantaine de poèmes, plusieurs nouvelles et donc j'ai décidé de lancer un petit peu ça plus sérieusement.
Alors justement, donc vous venez de publier « La petite culotte communiste », moi j'adore le titre. C'est un objet un peu atypique parce que c'est composé d'un recueil de 4 nouvelles, d'un CD dans lequel il y a 15 chansons et d'un bonus théâtral.
C'est ça. Mais le principe, c'était un peu, voilà, moi c'est vrai que je suis, donc je me sens plus écrivain que chanteur. Maintenant, voilà, la chanson est un format qui me plaît beaucoup au niveau de l'écriture. Donc j'ai décidé un petit peu d'allier les deux dans un livre CD qui est d'ailleurs, pour les libraires, un enfer à classer, pour les médiathèques aussi.
Qu'est-ce qu'elles racontent, vos chansons et vos nouvelles ? Enfin, il y a un fil conducteur ?
Alors, un fil conducteur, c'est, à ce qu'on dit, c'est plutôt engagé politiquement, engagé à gauche. Ensuite, voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'histoires... histoire sentimentale vécue ou plus ou moins inventée. Voilà, ça rhabille quelques personnes pour l'hiver, notamment au niveau du gouvernement ou de la religion, etc. Voilà, de fil conducteur, c'est assez difficile à dire, puisque ce sont de petits textes. Voilà, ce sont les textes, moi, que j'ai préférés, donc que j'ai décidé de réunir en recueil.
Alors, dans ce que j'ai pu lire, en tout cas sur votre blog, je trouve, on trouve beaucoup d'humour dans vos nouvelles, que ce soit dans la forme ou le contenu.
Alors, j'essaye. C'est pas toujours facile. C'est vrai que j'essaye quand même de donner une touche humoristique, même au texte qui essaie de dénoncer certaines choses. Donc, au niveau du fond, oui, c'est plutôt pris à la légère. Au niveau de la forme, ça s'apparenterait à un petit peu à ce que faisaient les écrivains surréalistes il y a quelques dizaines d'années. Voilà, j'essaie de m'amuser beaucoup avec la langue française.
Ouais, moi je trouve qu'il y a une sorte de, on va dire, de naïveté dans l'écriture.
Un petit peu, une écriture un peu infantile.
Voilà,
parfois.
Ouais.
Oui, ben c'est un peu le système de, voilà, d'essayer d'écrire. Un petit peu comme on parle aussi.
Quelles sont vos sources d'inspiration ?
Alors, les sources d'inspiration, c'est les lectures, c'est ce qui se passe autour de moi, c'est ce que j'entends, ce que j'écoute, c'est après le déclic qui fait que j'écris une chanson sur un sujet et pas sur un autre, c'est quelque chose d'assez, d'assez indéfinissable. On me pose souvent la question et j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question. C'est assez mystérieux pour moi aussi.
Tout à l'heure, là, vous avez parlé des auteurs surréalistes. Est-ce qu'il y a des auteurs en particulier qui vous inspirent peut-être ?
Alors, au niveau surréaliste, j'ai beaucoup lu Boris Vian. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Georges Perec. Ensuite, moins surréaliste, peut-être des auteurs comme Mark Twain, comme Jean Rille. Beaucoup de littérature russe aussi. voilà, c'est assez varié. Maintenant, l'écriture est quand même plutôt influencée par, par des gens comme, comme Vian ou Pérec, je pense, sans vouloir me comparer à eux, évidemment. Hein.
Alors, j'ai lu aussi que vous aviez voyagé en Russie. Est-ce que c'est de ce voyage que vous avez tiré le titre de votre ouvrage ?
Pas vraiment. Hein. Le communisme en Russie a quand même fait beaucoup de mal. J'ai eu l'occasion de le voir. Non, le titre a été choisi parce que sur, voilà, sur tous les titres qu'il y avait dans ce recueil, ça me paraissait le titre le plus intrigant. Et donc celui qui peut-être amenait le plus d'interrogations au niveau des gens susceptibles de l'acheter. Ensuite, voilà, on m'a dit, et je le pense aussi, que c'est quand même un peu plus anarchiste que communiste.
Alors il vous est arrivé quelque chose de pas banal hein, avec votre livre. Il a été retiré des rayons du Leclerc à Aubin.
Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Pas à Aubin, à Rodez. C'est le centre culturel de Rodez qui a décidé de le retirer des rayons pour des raisons assez mystérieuses. Le livre serait trop osé dans son contenu. Voilà, il n'y a pas eu vraiment plus de commentaires. Bon, on va dire que j'ai essayé un petit peu de profiter presque de cette chance. C'est presque un prix littéraire d'être retiré
des rayons,
des rayons d'un grand distributeur national.
Mais ils vendent, je pense qu'ils vendent les livres de Sade, non?
Ah ben, j'espère pour
ou d'autres.
Eux, voilà, ce sont des raisons. Je crois qu'elle a fait, elle a pris cette décision, la responsable, un petit peu comme ça. Elle ne s'attendait pas à ce que moi je réagisse derrière. Il est évident que les raisons qu'elle donne, elle peut donner à peu près n'importe quelle raison. Il y a des auteurs qui sont bien plus osés que moi, on va dire, des Apollinaire, Verlaine, Sade, etc. J'espère qu'elle ne les retire pas des rayons quand même. Ça serait bien plus grave que le retrait d'un livre d'un petit auteur local. Donc voilà, ce sont des raisons. Elle n'a pas voulu s'embêter avec moi, je crois, plutôt.
À propos de la publication, vous avez trouvé facilement à vous faire publier ?
Alors c'est auto-édité.
C'est auto-édité, d'accord.
Auto-édité, j'ai payé intégralement l'impression et le pressage du disque. Il y a juste, évidemment, un imprimeur professionnel qui est passé derrière pour finaliser le projet. Disons qu'il y a un système qui s'appelle le compte d'auteur, avec les éditeurs. Voilà, c'est quelque chose qui est assez déconseillé, parce que c'est un système où l'auteur prend tous les risques et l'éditeur ramasse de l'argent s'il y a de l'argent à ramasser. Donc j'ai préféré un petit peu me lancer tout seul et voir ce que ça donnait.
Nicolas Blaise, merci beaucoup. Et pour donner une idée à nos auditeurs de ce que vous faites, on va écouter La Petite Culotte Communiste.
Merci à vous.
Moi, ce que j'aime, c'est les filles, que si tu leur joues toi, Nantes, que si tu cites les ninelles, baisse leur petite culotte. Hardy, Hardy, mon petit gars, glisse-moi entre les cuisses, faisons des petits communistes concevant du prolétariat. Hardy, Hardy, dénude ta faucille, Hardy, Hardy, je déballe mon marteau, Hardy, Hardy, j'ai déjà l'acquis, Hardy, Hardy, t'es déjà un nom. Celle qui pour une cantine sous le cuirass et Potemkin décalote votre pine en brouette argentine, qui au moment fatidique, loin de vous couper la chic, crie en espagnol parfait, sta la victoria siempre, Hardy, Hardy, dénute ta faucille, Hardy, Hardy, je déballe mon marteau, Hardy, Hardy, j'ai déjà l'acquis, Hardy, Hardy, t'es déjà un nom. Nul besoin d'aller chercher à sa droite pour baiser. Chaque jour, chaque décret, on se fait déjà enculer. La barre à gauche, barre à bâbord, cherchons des sexes de notre bord. Et ma verge restera coite face aux utérus de droite. Hardy, Hardy, dénude ta faucille, Hardy, Hardy, je déballe mon marteau, Hardy, Hardy, j'ai déjà l'acquis, Hardy, Hardy, t'es déjà un nom. Aujourd'hui nos bourses qui gonflent et vos utérus qui ronflent, dans 9 mois d'entre vos cuisses renaîtra Vladimir Ilitch, et qu'au moins dans les alcôves poussent des graines de communistes. Associons nos pénis chauves et vos trompes de gauchistes. Hardy, Hardy, dénude ta faucille, Hardy, Hardy, je déballe mon marteau, Hardy, Hardy, j'ai déjà l'acquis, Hardy, Hardy, t'es déjà un nom. Hardy, Hardy, dénude ta faucille, Hardy, Hardy, je déballe mon marteau, Hardy, Hardy, j'ai déjà l'acquis, Hardy, Hardy, t'es déjà un nom.
Donc, chers auditeurs, je suis seule dans la rue de Saint-Taf parce que Manu est parti, mais ça y est, il arrive. À toi, Manu.
Non, je recherchais une info qui était intéressante sur Nicolas Blaise et j'ai pas réussi à la retrouver. Il y a un site sur Rodez qui parle de l'activité politique de la ville et vous tapez Nicolas Blaise sur internet et vous verrez, il y a une suite d'articles et il faut savoir qu'il a été interdit à l'espace culturel d'une surface commerciale de Rodez parce que son livre, voilà, La petite culotte communiste, a choqué pas mal de gens. Et il y a une interview de la directrice de cet espace et qui n'avait pas lu le livre, mais parce que des clients étaient venus se plaindre parce que ce livre était en vitrine, ça l'a pas plu. Et donc, dans cet article, dans cette page internet, il propose un petit truc, c'est qu'il faudrait aller dans cet espace commercial et dire que le dernier Johnny Hallyday est franchement pas génial et qu'il faudrait le retirer de la vente parce qu'il est pas bien.
Non, mais tu comprends, c'est un peu sexuel, ça va loin, ça gêne les gens. Tu comprends?
Ah ben il y a une comparaison de texte, il y a un texte de Guillaume Apollinaire qui est franchement très cru, et ben par rapport à ce que lui a écrit où c'est vraiment très joli quoi, c'est pas vraiment plus cru que les fameux textes d'Apollinaire. Bref voilà, c'était Nicolas Blaise et il sera à la Guinguette Lautrec le jeudi 27 octobre. On continue sur vos terres de Rouergue, pays du Vaud d'Aveyron et du Ségala, un label de qualité, soi-disant. Pays de céréales, de bovins et de couteaux, accueille tous les ans le Rutserg Festival le 29 octobre. Bien loin de l'Éthiopie et de son empereur, Julien, je crois qu'il s'appelle Julien Nègre de l'Orga, au micro d'Elsa.
Julien, bonjour.
Bonjour.
L'association Ajal organise samedi la 8e édition du Rutserg. Au programme de ce festival, donc, des concerts, ce qui va de soi, et la deuxième foire Rutsen Bio. Donc, est-ce que tu peux, pour commencer, nous parler de cette foire qui se tient dans la Bastide de Sauveterre?
C'est quelque chose qu'on a mis en place l'an dernier, qui était assez limité, on va dire. On a essayé de développer un petit peu cette année. Donc il y a un marché aux produits bio, solutions écologiques, énergie renouvelable, ce genre de choses. Et avec ça, on l'agrémente en fait par une conférence sur le développement durable qui a lieu à la salle du Fourbanal dans le village. Voilà. Donc le but de cette conférence, c'est de sensibiliser le public et les organisateurs d'événements aux démarches éco-responsables, donc sur les manifestations.
Elle a lieu à quelle heure, cette conférence?
Alors, la conférence aura lieu à 15h, donc à la salle du Fourbanal. On a plusieurs intervenants qui sont au nombre de 3. Donc, on a une personne de la communauté de communes de Baraqueville qui vient à présenter des actions locales de sensibilisation qui sont faites au niveau du développement durable et du tri des déchets. Ensuite, il y aura Lola Fabre qui fait partie de l'association Boulègue en Levezou, porteuse du Cap Festival, qui présentera et fera une analyse du bilan carbone qu'elle a effectué en 2010 sur le Cap Festival à Centresse. Et ensuite, pour finir, on aura l'association Élémentaire, donc bien connue, qui fournit les gobelets réutilisables sur pas mal de manifestations et qui viendra parler de l'intégration des démarches de développement durable dans la conception des événements et des manifestations et des concerts, voilà, en général.
Et ce sera suivi d'un débat.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, après les intervenants, des débats et échanges avec les divers participants et puis un petit pot de fin de conférence, voilà.
Au niveau de la foire, il y aura quel type de stand?
Alors, j'ai dit au niveau des produits bio, des solutions écologiques, éco-habitat, de l'information, beaucoup aussi, hein, pas uniquement des stands marchands. Donc voilà, c'est très varié, on s'est laissé le choix de trier un petit peu les exposants sans obliger les gens à être estampillés AB ou éco-cert, si vous voulez. Voilà, c'est très varié.
Et c'est donc à partir de 10h
jusqu'à 18h, donc en fin d'après-midi. Et après, on enchaîne donc sur les concerts et sur la 8e édition du Rutserg Festival.
Qu'est-ce que vous nous avez concocté comme programme?
Côté encore une programmation assez alléchante, un équilibre entre découverte et tête d'affiche. Et donc on attaquera en première partie avec Ivory Soul, c'est un groupe qui nous vient de Toulouse, qui fait du reggae soul, qu'on avait vu sur le Rastafantraï au mois de mai, donc du côté d'Entraille. Ensuite, on aura Winston McAnuff et Bass Bass Orchestra, donc c'est un groupe un peu hybride, issu de l'association de Winston, qui est un vieux Jamaïcain, voilà, qui a toujours fait du roots avec le groupe de Camille Bass Bass, donc c'est un mélange roots, funk, pop rock un petit peu, voilà, qui a un style aux diverses influences. Ensuite, la grosse tête d'affiche de la soirée, donc Ragasonic, pardon. Un retour après le passage à Skabazak il y a un an et demi. Voilà, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus en Aveyron et jamais donc à Sauveterre de Rouergue. Donc ça promet beaucoup. Et pour finir la soirée, donc Kanka, un groupe bien connu de dub qui vient avec un MC, un bassiste pour les sessions live. Voilà, qui promet une fin de soirée agitée également.
Et il y a aussi, moi je vois Nathalie Jam.
Voilà, en interplateau. On n'en a pas parlé, il y a un petit changement. C'est vrai qu'au départ, les musiciens de Nathalie Jam et de Wakan, donc des locaux de l'agglomération ruthénoise, devaient faire un projet sur Bob Marley, enfin des reprises de Bob Marley. Là, ça sera Nathalie Jam, donc au complet, qui viennent jouer leur compo en interplateau. Donc voilà, qui viendront s'intercaler entre la programmation que j'ai. Bon, j'ai fait la liste, voilà.
Donc on peut voir tous ces concerts à partir de 20h30 à la salle des fêtes.
Voilà.
Alors, un dernier petit point. Pour venir, vous avez mis en avant les transports en commun et le covoiturage.
Voilà, tout à fait. Donc on a remis en place, hein, parce que ça fait 3 ans que ça existe, des navettes au départ d'Albi et de Rodez. Donc c'est vrai qu'après pour les Aveyronnais du Sud, ça serait bien d'avoir recours au covoiturage, puisque voilà, sur le terrain de Rouergue, il y a à peu près 1h20, je crois, depuis Sainte-Afrique en trajet. Donc on met en avant les sites, le site du Conseil Général, covoiturage Aveyron, et puis covoiturage.com sur nos sites, voilà, pour essayer de ce que les gens utilisent le moyen convivial et économique et écologique de rallier le lieu du festival.
Et l'hébergement, vous signalez aussi qu'il y a le camping municipal gratuit à l'entrée
du
village.
Pour les routes, il y a du camping au mois d'octobre, ça se fait encore. Ensuite, il y a les chalets de la Gazonne, c'est un petit village vacances qui est à 800 mètres du village, voilà, avec des chalets tout confort. Vous pouvez trouver plus d'infos donc sur leschaletsdelagazonne.fr, tout simplement. Et après, toutes les infos au niveau du festival, des navettes, les horaires, et puis les préventes, donc sur www.softairderoutesergue.com. Les billets sont en vente déjà au prix de 14€, donc hors frais de location, bien sûr, sur les réseaux Ticketnet et les réseaux France Billets Fnac. Donc voilà, il y a plusieurs points de vente. Vous pouvez regarder sur le site, plus d'infos donc sur notre site softairderoutesergue.com.
French people, have a time. Non, je t'aime. Yeah. Breaking down the walls. Babylon. It's a way of life. So let's go dancing down by the disco. Street music's playing. You don't need no passport. You don't need no ticket. Stop that line. All you need is clean hands. See me. And a pure in heart. I said, yeah, it's a music. Look at music. It's a medicine for your spiritual healing. I'll be the musical doctor. If you be my patient.
guys for dancing. Don't bother disco. Street music swing. You don't need no passport. You don't need no ticket. All you need is clean hands and a pure in heart. Yeah. It's a music. Like a music. It's a music. Roots music. It's a music. Like a music. Some music.
C'était Winston McAneuf que vous retrouverez avec le Bass Bass Orchestra au Rootsergue Festival le 29 octobre avec Ragasonic aussi, Kanka, Ivory Soul et Wakan et Nathalie Jam. Retour dans notre vilotte, après la place aux herbes de la dernière chronique, c'est Rive Gauche que l'on rencontre ce long bâtiment en pierre rouge. Florian Boulet au micro des Agourmands.
Chronique de la Maison de la Mémoire.
Cette fois-ci, comme les vacances scolaires sont là, j'ai pensé qu'un petit point sur un quartier, le quartier du Collège Foch, ça pourrait être sympa. Et cette fois-ci, on est parti. Alors, on n'y fait pas attention, mais sur le Collège Foch, aux deux extrémités, côté bibliothèque et puis à l'opposé, il y a deux plaques sur les murs. Donc je suis parti de ces deux plaques, complétées par les archives. Alors sur la première plaque, on peut lire qu'elle a été apposée à l'occasion de l'inauguration du lotissement des terrains de l'ancien hôpital. Avec les archives, on peut voir que ce qui est aujourd'hui un collège était un hôpital qui remonte au XVIIIe siècle. En 1752, le roi de France en fait un hôpital général, c'est-à-dire un des hôpitaux de la généralité, de l'intendance. Et donc, c'était le cinquième, il y avait entre autres Millau, Montauban, Rodez. Enfin, c'était un hôpital assez important, et du coup, ça lui donne la vocation, certes, de soigner les malades, mais aussi tous les vagabonds, les pauvres, les vieillards, etc. Et c'était géré par le clergé. Puis arrive la Révolution française et forcément tout ça passe à la force, au pouvoir public qui doit en assurer la gestion. Et en fait, l'hôpital possédait jusque-là donc les bâtiments qui sont aujourd'hui le Collège Foch, mais aussi tous les terrains derrière qui sont la place Leclerc, le jardin public et même tous les terrains qui devant vont jusqu'à la Sorgue. Et en fait, le nerf de la guerre, ça a toujours été de trouver des financements. Et donc, quand c'est les pouvoirs publics qui doivent gérer, ben c'est l'État qui doit payer. Et c'était pas suffisant. Donc, en fait, ils ont profité de tout leur terrain pour essayer de faire rentrer de l'argent. Parce qu'en fait, en 1810, on a construit le Pont Neuf. Et en fait, cette construction, ça a permis à la ville de s'agrandir de ce côté-là de la Sorgue. Et donc, de s'urbaniser. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils ont vendu petit à petit toutes les parcelles pour construire les maisons. Du coup, la ville, elle s'est agrandie de ce côté-là. On a équipé le quartier parce qu'en 1851, on a construit le palais de justice. En 1890, c'est le jardin public. Donc, à la fois des équipements assez emblématiques du 19e, quoi. À Paris, il y avait Haussmann, et un peu partout en France, on essayait d'embellir et de rendre plus agréables les villes. Du coup, ce qui nous amène au début du XXe, où l'hôpital, il n'avait plus que, en gros, ce qui correspond aujourd'hui à la place Leclerc, et des bâtiments, donc le collège Foch, et d'autres bâtiments juste à côté. En 1929, l'hôpital, il s'avère trop petit et trop vétuste. Du coup, la municipalité Borel cherche un moyen d'en construire un autre. Finalement, plutôt que de rénover tout le bâtiment, ils préfèrent déménager l'hôpital là où il est actuellement. Mais en même temps, ils se servent des terrains qui sont donc derrière la place Leclerc. Et c'est là qu'on va en arriver à la plaque du début, pour construire les premières habitations bon marché, l'équivalent des HLM, et qui en fait sont toutes les maisons qui bordent la place Leclerc. Dans la même foulée, ils détruisent un bâtiment qui servait donc d'hôpital et qui fermait la place Foch, parce qu'ils ont l'idée de construire le boulevard Trémoulet qui arrive au cinéma aujourd'hui, qui n'existait pas à ce moment-là. Et du coup, le bâtiment qui reste, donc celui du collège, il est rénové. Il accueille une maternelle dans la partie la plus proche de la bibliothèque actuellement, ainsi que le cours complémentaire de filles. Et c'est là qu'on arrive à la seconde plaque, donc qui est placée du côté de la bibliothèque, en hommage à Renée Salvignol, qui en fait était la directrice de ce cours complémentaire, mais qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a été une grande résistante du sud d'Aveyron, entre autres parce qu'elle a été agente de liaison entre les divers maquis, et aussi parce qu'elle cachait un poste de radio qui permettait l'information avec Londres, Paris, etc. Et elle a été arrêtée en mars 1944 par la milice, emmenée à Montpellier où elle a été torturée pendant quelques jours. Puis finalement, elle a été relâchée sans avoir jamais révélé quoi que ce soit aux Allemands et à Vichy.
Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain, Florian Boulet, Sophie Roumégousse, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.
Voilà, 3A 246, la chronique de la Maison de la Mémoire. Cette matinale touche à sa fin. Dans l'ordre, vous avez entendu comme morceaux musicaux Zoufris, Maracas, Si tu crois que cette nuit, Les Escrocs et leur chanson acédique, Nicolas Blaise tiré de son livre CD La Petite Culotte Communiste, et Winston McAneuf, Rootserg Festival, que vous retrouverez là-bas à Sauveterre de Rouergue. On n'oublie pas les places à gagner pour Rootserg au 05 65 49 29 94. N'hésitez pas, 05 65 49 29 94. Voilà, merci Z, merci Elsa, et on se retrouve vendredi.